Quotidien avec Hélène Denis.
C'est lundi, c'est le 15 septembre 2025. Il fait beau. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Et je suis bien entourée. Il y a Mathieu Tessier qui a mis son T-shirt qui fait réagir, où on peut lire « Bon matin, ça fait du sens ». Alors, Mathieu, la fin de semaine s'est bien passée pour vous?
Ben oui, quand on se compare avec les événements planétaires, ma vie va bien.
Oui, qu'est-ce que vous avez fait de spécial?
J'ai vidé ma laveuse, qui a décidé de ne pas se vider
plein cycle. Votre laveuse à vaisselle ou votre laveuse à linge?
Non, à linge.
OK, c'est le fun, ça.
Fait que si jamais quelqu'un a une laveuse à vendre, appelez Canalem. Non,
c'est à la recherche d'une laveuse.
Ben, je vais peut-être essayer de la réparer. Je vais voir.
Est-ce que tu attends quand ça commence à briser, ces affaires-là?
Mais sinon...
Mais c'est vrai, quand on se compare à pire que soi, on se dit, bien, c'est ça. Arrête de chioler, arrête de te plaindre.
Exactement.
Mais je suis pleine de compassion. Moi, ça m'est arrivé avec mon réfrigérateur, mais ça fait un petit bout de temps, là. Ouais, c'est pas des choses qu'on souhaite. Peut-être à son ennemi, là, mais non.
Non, mais un réfrigérateur, c'est un essentiel.
Une laveuse,
je peux toujours trouver une buanderie ou me laver en prenant mon bain, mais...
Mais quand ça se brise en fonction, tu sais, ça crée un peu plus de problèmes. Je pensais pas qu'on aurait parlé de laveuse brisée ce matin. Et puis, vous, très cher Louis de Bernis, est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose d'insolite en fin de semaine?
Insolite, non, mais du vélo en manche longue.
En manche longue, oui.
Oui, parce qu'il faisait un peu frais samedi matin.
Puis aujourd'hui, vous avez sorti vos shorts.
Oui, aujourd'hui, il y a plus de soleil. Mais non, on profite encore de la belle saison pour rouler avant que les températures ne descendent trop.
C'est encore l'été, hein? Encore une semaine. L'été tire à sa fin, mais vraiment en beauté. Là, on a un mois de septembre assez extraordinaire jusqu'à maintenant, mais je compatis aussi avec tous ceux et celles qui cultivent des terres parce que il n'y a pas de pluie. On en prévoit le 22, ça c'est lundi prochain. Et ça prendrait de l'eau, c'est sûr, pour faire pousser les choses, là, parce que sans ça, c'est tout jaune et ça pourrit, puis ça ne sera pas bon pour personne. Hein. Alors, votre insolite aujourd'hui, deux insolites, Louis, en lien avec des problèmes de frontières.
Exactement, oui. Problème de frontières, celle entre la Chine et la Russie, pour commencer. L'histoire incroyable d'un athlète français qui était bien parti pour battre un record impressionnant que je vais vous expliquer, mais qui a été arrêté par les autorités russes et malheureusement qui est encore détenu. Je vous raconterai son histoire. Et une autre histoire plus amusante de frontières aussi, des touristes américaines qui, à cause de la barrière linguistique, se sont retrouvés dans un avion pas du tout pour la bonne destination, parce que la ville de Nice rime avec Tunis en Tunisie, et elles ont pris ça avec le sourire au moins, mais c'est cocasse ce qui leur est arrivé.
C'est arrivé pour vrai.
Oui.
Merci Louis d'être avec nous. Il y a aussi Danielle Rioux, elle n'est pas là, mais je la salue, je pense à elle, on ne l'oublie pas, et j'espère que vous ne l'oubliez pas, ça me surprendrait, assez inoubliable là, comme personnalité radio et comme personnalité point. Elle est en Gaspésie, je crois bien. Je ne vais pas raconter sa vie, là. Je pense qu'elle ne serait pas contente. Mais elle sera avec nous la semaine prochaine, le 22 septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura aussi au menu? La pièce « Mommy, le retour », c'est une pièce genre horreur, rap. J'ai bien hâte d'en savoir davantage. Il y a le comédien Félix Beaulieu du Chêneau qui fait partie de la distribution, qui sera avec nous en dernière partie de l'émission pour nous présenter cette pièce qui prendra l'affiche du Centre du théâtre d'aujourd'hui dès le 23 septembre.
Il y a le soleil, l'été sur mes joues, qui est jamais pareil. C'est un gros câlin pour guérir nos chagrins. Pour l'amour, il y a les étoiles tombées dans nos yeux, jamais malheureux. Câlin en guérit nos chagrins.
Dubois et sa chanson « Laissez l'été avoir 15 ans ».
Alors, allons-y avec la une du Devoir d'aujourd'hui. Un Grand Prix cycliste de Montréal sous tension. Dimanche, l'Américain Brendan McNulty, a remporté le Grand Prix cycliste de Montréal devant son coéquipier et leader de la course, Tadej Pogacar. L'événement a également été marqué par la présence de nombreux manifestants pro-palestiniens sur le bord des routes qui ont vivement dénoncé la présence de l'équipe Israël Premier Tech dans la compétition. Un autre titre qui fait la une des journaux ce matin, entre autres la une du Devoir, c'est la mort de René Aumirois, la voix érudite de René Aumirois. Sais-tu, le journaliste, animateur et critique avait passé 27 ans à la barre de différentes émissions sur les ondes de Radio-Canada, écrit Philippe Renaud. Pour la première fois en 60 ans, nous, passionnés des arts et de ceux qui les font, vivrons cette rentrée culturelle en l'absence de René Aumirois. Le journaliste, animateur et critique ayant passé sa riche carrière à guider le public québécois à travers les œuvres des cinéastes, écrivains, dramaturges et compositeurs, s'est éteint dimanche à l'âge de 85 ans. C'est ce qu'ont confirmé ses proches à Radio-Canada, où il fut tour à tour morning man, chroniqueur et jusqu'en juin dernier, animateur du magazine culturel Culture Club, diffusé sur Ici Première. Ça nous prend tous par surprise, confie Mathieu Beauchamp, réalisateur à Ici Première, qui jusqu'en juin dernier signait la réalisation du magazine Culture Club que Renaud Mirois animait depuis 2013, jusqu'à ce que sa santé défaillante le pousse à la retraite. Je savais qu'arrêter de travailler, ça allait être un coup très dur pour lui, explique le réalisateur. René m'a écrit une semaine et demie après la dernière de Culture Club le 21 juin dernier, parce que ça lui avait pris tout ce temps avant de l'écouter. Affaibli, l'animateur avait été empêché de retourner en studio enregistrer une dernière émission. Comme il le souhaitait, Mathieu Beauchamp s'était alors déplacé à son domicile pour enregistrer son mot d'au revoir, signant sobrement la fin d'une carrière pourtant exceptionnelle. J'y reviendrai un peu plus tard sur Renaud Mirois, qui a été si important et qui le demeurera pour tous ceux et celles qui sont amoureux et amoureuses de la culture et de la communication. Des étudiants confiants face au chômage, la hausse du taux de chômage chez les jeunes aurait de quoi les inquiéter. Cela ne semble pourtant pas miner le moral des étudiants que Le Devoir a rencontré. Ils justifient leur optimisme par les besoins en main-d'œuvre dans différents secteurs. C'est un texte d'Alex Fontaine. Et puis, on voit aussi Lorraine Pintal, la femme de théâtre qui a dirigé le TNM pendant 32 ans, qui fait de la mise en scène encore. C'est elle qui a signé la mise en scène du spectacle qui est à l'affiche en ce moment, pièce de Kim Thuy. Donc, Lorraine Pintal, candidate d'Ensemble Montréal. Et oui, on l'annonce dans Le Devoir, Lorraine Pintal. Elle souhaite devenir conseillère municipale dans Rosemont pour le parti de Soraya Martinez-Ferrada. À la une du Journal de Montréal, on voit toutes sortes d'objets suspects saisis à répétition dans nos prisons. Pas moins de 5 millions de dollars en drogue, tabac, cellulaire ont été saisis depuis ce printemps. C'est ce qu'a appris le journal lors d'une rare incursion à l'intérieur des murs. Alors, un spécial de 2 pages là-dessus. Un climat de plus en plus tendu aux États-Unis. En lien avec l'assassinat de Charlie Kirk, l'Arabie saoudite veut investir chez nous, entre autres dans le domaine du sport, de la boxe et explosion des fraudes. 9 fois sur 10, il n'y a aucune accusation. C'est à la page 5 du Journal de Montréal. Pas d'accusation, 9 fois sur 10. Les policiers sont débordés par le nombre et la complexité des dossiers de fraude. Les dossiers de fraude constituent des crimes particulièrement complexes à traiter. Ce type de crime est en constante évolution et les fraudeurs adaptent rapidement leur stratagème, résume le sergent Laurent Arsenault de la police de Laval. Et puis à la une de la presse plus, on parle du gala des Gémeaux, le gala des prix Gémeaux, une belle fête sur fond d'inquiétude. La 40e édition du grand rendez-vous de la télévision québécoise s'est déroulée sous le signe du talent de ses artisans et de leur espoir de sauver ce qui reste de notre industrie face aux géants internationaux. Le compte-rendu de notre chroniqueur Hugo Dima, alors j'en reparlerai aussi, et je saluerai aussi tous les lauréats et les lauréates. Renaud Mirois, tout sourire à la une de la presse, une voix aimée s'éteint, et Nathalie Collard écrit une chronique intitulée Le goût des autres. C'est cette chronique que j'ai choisi de lire ce matin vers les 10h et quelques.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. Oh. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Oh, et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. hier encore on était liés. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Une chanson de Angèle, oui ou non?
Merci Mathieu. Alors allons-y avec la chronique insolite de Louis de Bernice. Un athlète français n'a pas été chanceux finalement, Louis.
Non, en fâcheuse posture, alors qu'il tentait une aventure absolument incroyable. C'est le français Sofiane Sehili dont je vous parle ce matin, qui est l'un des meilleurs spécialistes au monde en ultra-distance en vélo. Il aime beaucoup pédaler.
Ultra-distance.
Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de kilomètres dans son cas. Cette histoire-là a commencé le 1er juillet à 8h du matin. Donc, Sofiane Sehili a quitté le Cabo da Roca, tout au sud du Portugal. Ce promontoire sur l'Atlantique qui marque en fait le point européen continental le plus à l'ouest, le plus avancé dans l'océan Atlantique. Eh bien, c'était son point de départ à lui d'une tentative de record cycliste qui devait le mener aux confins russes, à Vladivostok, tout à l'est du continent asiatique, en vue, en fait, un record de 64 jours et 2 heures établi en 2017 par l'Allemand Jonas Deichmann. Et malgré d'innombrables embûches sur la route, le Français était en passe de réussir en début de mois ce périple de 17 600 km. Parcouru à une moyenne effarante de 280 km par jour en vélo, en autonomie, sans assistance, à pédaler absolument tous les jours. Le problème, eh bien, est survenu le mardi 2 septembre et a mené Sofiane Sehili à être détenu par les autorités russes, ce qu'il est toujours encore aujourd'hui. La situation n'est pas simple, malheureusement. C'est lors de la dernière frontière qu'il devait traverser, il en a traversé un certain nombre, mais la dernière entre la Chine et la Russie dans l'extrême-orient sibérien, que le problème s'est produit. Le matin du 2 septembre, Sofiane avait encore 33 heures pour rallier Vladivostok et battre ainsi ce record. Et il était bien parti. Il s'est présenté alors à l'imposant bâtiment qui balise la voie routière vers la Russie du côté chinois. Il le dit lui-même parce qu'il publiait de temps en temps sur les réseaux sociaux des nouvelles pour faire savoir qu'il allait bien. Ce matin-là, il avait publié « Je suis aujourd'hui la principale attraction, le seul étranger. La police chinoise inspecte mon vélo, me regarde, ne me dit rien. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer la frontière. » Peu après, malheureusement, assez dépité, il apprend que le passage lui est refusé par les autorités chinoises. En effet, à cet endroit de la frontière, seul un passage en train est possible, long d'une vingtaine de kilomètres. Il n'y a pas vraiment de route praticable. Impossible pour lui, bien, parce que ça rendrait son record, ça annulerait tout son périple, ça rendrait son record caduc. C'est vraiment, comme il le dit lui-même, une bande de terre, mais pas praticable, qu'on ne peut traverser normalement qu'en train. On ne peut pas aller, bah, comme on imagine, nous, avec les États-Unis, toucher la frontière américaine, revenir à pied. Non, c'est un environnement beaucoup plus sauvage à cet endroit-là. Le cycliste a donc, il venait quand même de parcourir plus de 17 500 km et il touchait vraiment au but. Il a donc décidé de traverser la frontière.
Il a désobéi.
Oui, ce qu'il comptait faire, en fait, c'était à travers les collines boisées du sud de Suifenhai, c'est le nom de la localité, de longer la voie ferrée transfrontalière sur environ 13 km pour ensuite se présenter à la douane ferroviaire côté russe, à la petite station forestière qui se trouvait là. Et il pensait qu'en présentant son visa quand même en règle, les Russes simplement constateraient qu'il est là, que son visa est quand même valide, et le laisseraient passer. Ça n'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Sa compagne, qui est en contact, pas forcément avec lui directement, mais avec le consulat français en Russie qui gère l'affaire, le raconte dans les médias. Il reconnaît le franchissement illégal de la frontière, mais il n'a pas pris la mesure de la chose. C'est le consulat qui nous aide en ce moment. Il l'a fait en pensant à son sport, en pensant à son record pour lequel il a mis tant d'efforts de préparation depuis des années.
C'est la raison pour laquelle on lui avait dit de ne pas traverser. La raison pour laquelle on lui avait dit de ne pas traverser, c'était que la route était impraticable.
Oui.
Alors, il y a rien de...
Et puis la Chine et la Russie veulent contrôler absolument tout ce qui se passe à leur frontière.
Il y avait d'autres choses qui se cachaient derrière ça, j'imagine.
Oui. En tout cas, il n'a pas pensé aux conséquences diplomatiques que cela pourrait avoir. Et en ce moment, la Russie avec les autres pays du monde, ça donne des relations un peu tendues. Donc, il faut éviter de mettre un grain de sable dans la machine. En tout cas, Sofiane Sehili n'est pas un amateur. C'est pas ça qu'on peut lui reprocher. Il est un spécialiste des courses très longues distances. Il a remporté déjà plusieurs épreuves majeures du genre dans les montagnes du Kirghizistan, au Maroc également. Et il y en a une très connue qui s'appelle le Tour d'Ivoire, qui est l'une des plus prestigieuses au monde, entre le Canada et la frontière américano-mexicaine, qui fait traverser aussi des paysages époustouflants. Il est donc une référence dans le petit monde non professionnel de ces épreuves très longue distance en autonomie. Il avait par exemple déjà réalisé une traversée intercontinentale en 2017. Il était parti de Paris et avait rejoint Taïwan 3 mois plus tard, en traversant là aussi des dizaines de pays et de paysages incroyables. Lors de cette traversée-là, de cette tentative estivale, le Français avait déjà traversé 17 pays. Il était déjà passé sans encombre en Russie, entre la Géorgie et le Kazakhstan, donc ça n'est pas un problème de visa avec la Russie. Il avait, à l'époque, il devançait déjà le temps de passage du record de l'Allemand Jonas Deichmann. Interrogé sur la route par un journaliste d'une revue spécialisée, il imaginait déjà son arrivée en solitaire à Vladivostok, de manière presque poétique, en tout cas très simple. Il disait « Quand j'arriverai, ce sera juste moi, ma caméra. Je dirai « Tiens, j'ai réussi ». Et ça suffit, pas de chichi. Parfois, les meilleurs moments sont ceux qu'on garde pour soi. Mmh. Il avait donc une approche simple et assez poétique sur sa pratique. Voilà, malheureusement, le problème, c'est qu'il est détenu encore aujourd'hui.
Ça fait quand même longtemps, là.
On espère que ça ne va pas durer des mois ni des années, mais à cause des relations internationales tendues en ce moment, il s'est mis dans un guépier un peu compliqué.
Il est dans le pétrin.
Exactement.
On lui souhaite de s'en sortir. Et il va s'en sortir, j'imagine.
On espère. Oui,
il n'a pas commis de crime majeur. Deux touristes américaines se sont trouvées dans une drôle de situation, dans un drôle d'avion.
Oui.
Je ne sais pas si l'avion était drôle, là, mais il ne s'en allait pas où elle voulait, où elle pensait.
Exactement. Une autre histoire de frontière, plus amusante celle-là. Il y a un cliché qui va continuer à perdurer. Alors, on dit, en tout cas en France, que les Américains ne sont pas très bons en géographie. On s'en moque parfois. On parle des habitants des États-Unis ici. Eh bien, ces deux touristes américaines nous en ont encore offert un bel exemple. Là, en cause, n'est pas tellement leur méconnaissance de l'Europe, mais plutôt leur accent américain qui n'a pas été compris par tout le monde, visiblement.
On a l'accent qu'on a.
Exactement. Eh bien, les conséquences de cet accent peuvent parfois être surprenantes et drôles. Tout ça est drôle. Elles ont vraiment pris la mésaventure avec le sourire. On peut le voir dans les vidéos. Dans ce cas précis, elles ont documenté sur TikTok leur mésaventure. L'utilisatrice se présente sous le nom de Britney Diallo et a rencontré un immense succès ces derniers jours. Elle a cumulé déjà plusieurs dizaines de millions de vues, cette mésaventure. C'est une vidéo publiée le 6 septembre qui les montre sortir d'un avion de Tunis Air avec le commentaire suivant. Quand l'employé de la compagnie aérienne ne comprend pas que l'on veut un vol pour Nice en France et que l'on atterrit à Tunis en Tunisie. L'histoire a débuté à Rome. Elles étaient au milieu d'un voyage européen, à Rome, en Italie. Les deux jeunes américaines se rendent au guichet, au comptoir, pour demander un vol pour Nice. To Nice, si please.
To Nice.
Eh bien, leur interlocuteur ne comprend visiblement pas bien avec l'accent et leur délivre des billets pour Tunis. Elles n'ont pas vérifié le billet, elles sont montées dans l'avion. Ce n'est qu'une fois dans l'avion, au moment de chercher leur place, que les deux voyageuses découvrent qu'elles s'envolent pour l'Afrique, qu'elles vont changer de continent, et non pas du tout pour la Côte d'Azur. C'est où est-ce que c'est Tunis, où est-ce que c'est la Tunisie, lance-t-elle avant le décollage, en rigolant sous les yeux interloqués de tous les autres passagers. Plusieurs passagers jouent un peu les guides touristiques, rient avec elle. J'aurais préféré quand même que ce soit une blague, commente la jeune femme. Une fois arrivées à Tunis, parce qu'elles n'ont pas débarqué de l'avion, elles ont vraiment pris le vol, elles ne pouvaient plus faire demi-tour. Elles ont publié une nouvelle vidéo, les montrant dans un bureau, probablement en train de chercher une solution pour prendre un autre vol.
Elles n'ont pas décidé de faire un peu de tourisme.
Non, elles visaient quand même vraiment la Côte d'Azur. Elles s'en sont remises aussi à ChatGPT pour les aider à traduire, à rédiger une lettre de plainte aussi contre la compagnie. Ça, c'est pas sûr que ça aboutisse.
Erreur...
humaine.
Ben, j'allais dire de bonne foi, ou en tout cas, c'était pas volontaire.
En tout cas, selon leur dernière vidéo, elles ont finalement bien pu embarquer dans un vol pour Nice. Et en attendant, les internautes suivent leur périple, leur souhaitent avec humour un bon voyage. Ce qui est quand même vraiment drôle, j'ai vu les vidéos, c'est qu'elles sont hilares dans l'avion, malgré la mésaventure qu'elles sont en train de vivre. Et leur rire est très communicatif.
Oui, oui, oui. C'est mieux de se retrouver à Tunis que dans une prison.
Oui, absolument.
Ouais. Bon, bien, merci pour ces deux insolites assez passionnantes. Ben, comme d'habitude, Louis, vous sortez toutes sortes d'histoires, vous les trouvez je sais pas où. Je pense que vous ratissez large dans vos recherches, là, mais vous arrivez toujours avec une bonne récolte. On va se retrouver lundi prochain, le 22. Ce sera presque l'automne. Je sais que l'automne arrive plus tard dans la journée du 22. Donc, c'est une journée où on aura une moitié d'été et une moitié d'automne. Une journée insolite juste pour vous. À bientôt. Vous le savez, sans doute, Renaud Miroy nous a quittés. Il est mort hier à l'âge de 85 ans. On va écouter le chanteur préféré de Renaud Miroy et on s'en parle tout de suite après la chanson du chanteur préféré de Renaud Miroy.
Vous pouvez rejoindre.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
De temps à autre un copain, de temps en temps un ami dans ma vie, mon frère, qui revient quelquefois, séjourné dans ma tête, qui me prend par la main quand j'en ai besoin, mon frère, il est parti un matin. En disant maintenant c'est toi le plus grand, comprends-moi, je m'en vais dans la vie. Un sur 3 milliards, j'ai changé mon pied de lit pour un quai de gare, et j'ai laissé le temps passer. De temps à autre un copain, de temps en temps un ami dans ma vie, mon frère, il revient quelquefois, séjourner dans ma tête, qui me prend par la main quand j'en ai besoin, mon frère. J'ai changé de grandeur, Janis Joplin n'est pas allé vivre ailleurs, c'est peut-être loin ou à côté. Cailloux font des ronds, t'habites une maison blanche et orangée, où on ne voit pas le temps passer. De temps en temps, un copain. revient quelquefois. Ces journées dans ma tête qui me prend par la main quand j'en ai besoin, mon frère.
Trop courte, cette chanson de Jean-Pierre Ferland, mon frère.
Jean-Pierre Ferland, le chanteur préféré de René Aumirois. Il avait du goût, ce René Aumirois. Et il va nous manquer. Hommage à un frère de radio, d'où le choix de mon frère, frère de radio, père de radio, René Aumirois, pour plusieurs personnes qui font le métier. Hier, on apprenait donc sa mort à l'âge de 85 ans. Lui qui est resté jeune d'esprit jusqu'à son dernier souffle. RHR, comme quelques personnes l'appelaient, était un homme moderne. Il se qualifiait de spectateur professionnel. C'était un grand, grand critique culturel, un grand intervieweur, également un homme cultivé, passionnant à suivre, jamais ennuyant. Un communicateur remarquable, il avait du swag, il n'avait pas peur de ses opinions et il était merveilleux. Et on l'aimait toujours, là. Il pouvait être très cruel lorsqu'il faisait ses critiques, mais c'était toujours par amour. C'est ce qu'il disait. C'est quelqu'un qui était exigeant, donc quand il n'était pas content de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait lu, de ce qu'il avait entendu, il ne mettait pas ses gants blancs et ça se perd. Il ne faisait pas de relations publiques, ce René Aumirois. Et Nathalie Collard signe la chronique « Le goût des autres ». Je vais vous la lire. En apprenant la mort de René Aumirois, je me suis demandé si de ne plus animer son cœur s'était arrêté. La vie de cet immense communicateur a toujours été si intimement liée à son travail qu'il était sûrement triste de ne pas faire partie de cette rentrée médiatique, même s'il avait des ennuis de santé et que continuer était devenu trop compliqué. Dans l'univers médiatique québécois, René Aumirois était un communicateur comme il ne s'en fait plus, un modèle. D'une curiosité insatiable, jamais blasée, son plaisir était contagieux. L'écouter parler d'un film, d'un livre ou d'un spectacle qu'il avait aimé donnait automatiquement envie de le découvrir. « C'est ce que je vais retenir de cet homme », écrit Nathalie Collard, « son appétit et sa passion pour la culture sous toutes ses formes et ce jusqu'à la fin. Grand cinéphile devant l'éternel, c'était un touche-à-tout qui faisait partager ses coups de cœur et ses coups de gueule avec ferveur, en respectant toujours l'intelligence de son public. » Son propos nous élevait. René Aumirois n'aimait pas les gens obséquieux, il dirait têteux, les flatteries et la complaisance. Il était exigeant avec les autres comme il l'était envers lui-même. Alors, ceux et celles qui ont gagné son estime au fil des ans se sentaient d'autant plus privilégiés. Il avait dirigé la section des arts de la presse à la fin des années 1960, puis il avait fondé deux magazines, Nous et Ticket. J'étais trop jeune pour connaître Nous, mais j'ai interviewé René Aumirois en 2003 pour les 30 ans de la création du magazine. Avec sa facture moderne et son ton irrévérencieux, Nous avait marqué les esprits à l'époque. Pour mon reportage, j'avais parlé à d'anciens collaborateurs, Marie-Hélène Roy, grande amie et complice de René, Georges Hébert-Germain et Pierre Bourgault. En relisant mon texte dimanche, j'ai eu le vertige en réalisant que toutes ces personnalités, plus grandes que nature, étaient disparues. Mes premiers souvenirs de René Aumirois remontent aux années 1970, alors qu'il était chroniqueur à la télévision. La première chose qui avait marqué l'enfant que j'étais, c'était son look, une veste de daim, des verres fumés. Il était différent des autres, par son ton aussi, un peu baveux. Que j'aimais son ironie, ses expressions imagées, ses phrases ponctuées de mots anglais, toujours accompagnées d'un « comme disent les Chinois ». Adolescente, je ne manquais jamais à première vue ce magazine de cinéma qu'il animait en duo avec Chantal Joly. Je me délectais de leur mauvaise foi, de leur critique assassine et de leur prise de bec. Ces deux-là donnaient toujours envie de voir des films. J'étais tout aussi fan de la bande des six, rebaptisée la bande des Bitches, un magazine culturel qui n'a duré que quelques années, mais qui a marqué la génération d'aspirants journalistes dont j'étais. C'était l'époque où Renaud Mirois terrifiait le milieu culturel avec ses critiques souvent acerbes. Mais comme il aimait le dire, quand on aimait beaucoup. C'est son passage à C'est bien meilleur le matin qui a fait de lui une personnalité médiatique adorée du grand public. Ses angles se sont arrondis sans jamais qu'il ne perde de son mordant. Il embrassait un nouveau métier, celui de morning man, à l'âge de 58 ans. Faut le faire. Et il l'a fait avec brio durant 15 ans. Il l'a déjà dit en entrevue, cette période a été la plus heureuse de sa vie professionnelle et ça s'entendait. J'ai eu la chance de tenir une chronique hebdomadaire sur la politique municipale durant 2 ans à cette émission. Même au plus froid de janvier, j'adorais me lever aux aurores pour avoir le privilège de faire de la radio avec le grand René Aumirois. La dernière fois que j'ai vu René, c'est chez lui, dans son superbe appartement du complexe Habitat 67 en juin 2022. Il venait de remporter la médaille de bronze de « meilleure personnalité à l'antenne » au New York Festival Radio Awards et se demandait à la blague s'il s'agissait d'un prix gériatrique. Toujours cet humour cinglant. À 82 ans, il était, comme à son habitude, allumé, vif et plein d'esprit, et il ne voulait rien entendre du mot « retraite ». 3 ans plus tard, il faisait pourtant ses adieux aux auditeurs, reconnaissant pour la vie riche et jamais plate qu'il avait vécue. Le plaisir et la chance, confiait-il au micro de l'émission Culture Club, auront été les deux mamelles de mon bonheur, de ma carrière et de ma vie. « Je pars », avait-il ajouté, « mais je ne suis pas fâché. Je suis triste, mais la vie continue. » J'aime penser que René est allé rejoindre son amoureux durant 50 ans, Pierre Morin, sa grande amie, Marie-Hélène Roy, et j'ajouterais Jean-Louis Robillard, c'était un de ses grands amis avec qui il allait à New York à peu près tous les week-ends lorsqu'il était un peu plus jeune. Et Nathalie Collard écrit aussi notre ancien collègue Marc-André Lucier, qui a aussi été son biographe. La biographie s'intitule « Moi », si ça vous intéresse. J'espère qu'ensemble, ils parleront de cinéma pour l'éternité. Alors voilà pour la chronique bien émouvante de Nathalie Collard intitulée « Le goût des autres ». Et il y a plein de textes. Les hommages fusent et pleuvent de part et d'autre. 60 ans de carrière, bravo. Et merci René Aumirois. Et j'offre mes condoléances à ses proches et à tous ses collègues.
Magnolia, Magnolia, je ne sais plus qui croire. Au bout de mon histoire, je serai où, je serai quoi? Je te regarde fleurir d'avril en avril. Moi, je ne tiens qu'un fil. Magnolia, Magnolia, serais-je un oiseau ou un arbre comme toi? Ou un rien pantoute flottant dans l'au-delà, verrais-je défiler comme au cinéma toutes les scènes de ma vie? Magnolia, 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 j'ai déjà cru en Dieu. Je me revois garçon, la foi dans les yeux, dans ma soutane blanche, j'agitais l'encensoir, sûr que les filles du dimanche seraient là pour me voir. J'apprivoisais les anges, je faisais de l'œil aux démons, petit soldat étrange en guerre de religion. Aujourd'hui les églises sont à vendre. Je me cherche un mystère. Magnolia, Magnolia, serais-je un oiseau ou un arbre?
de temps faire. Mais l'univers recule à chaque année lumière. Et je me sens ridicule, particule de poussière, sous la simple beauté de tes fleurs passagères. Je ne sais plus qui croire, la science, la poésie. Au bout de mon histoire, ce sera le jour ou la nuit. Si par hasard je croise l'auteur de tout ça, est-elle une femme? Se souvient-elle de moi? Qui te regardait fleurir? Magnolia, magnolia. Ou un arbre comme toi. Ou un rien pantoute flottant dans l'au-delà.
Nouveauté de Michel Rivard, Magnolia, Magnolia.
Michel Rivard qui revient avec deux chansons originales, les pièces Les Falaises Rouges et Magnolia, Magnolia qu'on vient de vous offrir, précède de l'album Après, on va où? Qui va paraître le 31 octobre. Une tournée va accompagner ce disque. L'aventure va commencer en avril 2026 au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal. Michel Rivard y convie le public à une rencontre intime mélangeant exploration théâtrale, récits, poésie, chansons, infatigable créateur, inépuisable interprète. Il célébrait récemment ses 50 ans de carrière avec le spectacle et l'album Le Tour du Bloc. Juste avant, c'était L'Origine de mes espèces, une œuvre inédite sous forme de théâtre musical qui se présentait comme sa genèse personnelle et qui est peut-être aussi celle, du moins pour la forme, de Après, on va où? Alors, on verra ça lors du spectacle qui va être présenté alors au Centre du théâtre d'aujourd'hui, mais il y aura plein d'autres dates et plein d'autres lieux. Et si on se concentre sur la chanson qu'on vient d'entendre, on raconte un peu l'histoire, d'où ça vient, cette inspiration pour la chanson Magnolia, Magnolia, qui est une allégorie à propos de cet arbre si beau qui pousse près de sa maison et qui n'a l'air de rien pendant 50 semaines et qui, pendant une douzaine de jours, devient formidablement fleuri. Michel Rivard y perçoit une franche humilité, celle d'être ordinaire le gros de l'année, puis de devenir flamboyant quelques instants avant de retomber dans l'anonymat. Dans cette ballade aux arrangements riches comme les contemplations d'une vie, il sonde ce végétal comme si c'était son âme sœur, l'interrogeant sur la mort et leur religion. Je ne sais plus qui croire, la science, la poésie, au bout de mon histoire, ce sera le jour ou la nuit, en puisant dans l'inspirante et mystérieuse beauté de la nature, opposant sa calme récurrence à un monde qui s'effrite, Magnolia, Magnolia, se présente avec une lumière dans le cœur qui la porte vers le haut, tout en déployant une ambiguïté sous-jacente dans les arrangements, comme quoi les réponses qu'on cherche ne sont jamais claires. Bien triste histoire, la communauté sourde pleure la mort de deux Québécoises, Guylaine Boulanger et Élise Bénard, deux Québécoises de 62 et 66 ans, sont toutes les deux mortes, frappées par un train samedi au Portugal. Leur départ laisse un vide immense dans la communauté sourde de Montréal, où elles étaient bien connues. La mort des deux Québécoises, d'abord rapportée par plusieurs médias portugais, a été confirmée par les publications de plusieurs proches et amis sur les réseaux sociaux dimanche. Les victimes prenaient des photos du train qui approchait près d'un passage à niveau, selon le rapport de notre patrouille qui a recueilli les informations auprès des personnes présentes sur place, a déclaré une source de la Garde nationale républicaine à CNN Portugal. Guylaine Boulanger et Élise Bénard faisaient partie d'un groupe de 4 voyageuses toutes sourdes. Elles se sont éloignées du fleuve Douro, où elles prenaient des photos pour rejoindre un passage à niveau qui relie la route municipale à une ferme de tourisme rural. Le train a klaxonné, mais les femmes qui étaient sourdes ne l'ont pas entendu. Le conducteur n'a pas pu s'arrêter et l'accident mortel était inévitable. Les victimes étaient déjà en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers. Leurs décès ont été constatés sur place par le délégué à la santé. La police judiciaire de Villarreal a procédé à des expertises médico-légales et a pris en charge l'enquête. Les corps ont quant à eux été transportés à l'Institut de médecine légale pour y être autopsiés, toujours selon ce média. « Nous sommes frappés par cet événement autant inattendu qu'inexplicable », a déclaré Élie Presseau, qui a travaillé avec Guylaine Boulanger comme postier sur Facebook dimanche matin. Guylaine Boulanger faisait partie d'une fratrie composant 3 sœurs sourdes et elle est impliquée dans la communauté des postiers car elle enseignait des cours de langue des signes québécoises. Les deux femmes sourdes décédées aimaient voyager et elles mordaient dans la vie à pleines dents. Puissions-nous sortir encore plus fort de cette épreuve collective qui secoue la communauté sourde, a-t-il écrit. Les mots ne peuvent pas assez exprimer ce que je ressens, même si je crois qu'il est trop tôt pour qu'elle nous ait quittés. Il n'y a aucun doute dans mon esprit et mon cœur qu'elle est dans un meilleur endroit et qu'elle est heureuse, a déclaré le conjoint de Guylaine Boulanger par l'entremise du compte Facebook d'une connaissance. Il a salué sa passion du voyage et son énergie constante positive. Je viens d'apprendre une triste nouvelle il y a quelques instants. Élise Bénard, ma cousine, est décédée à la suite d'un accident au Portugal. Je suis assommée. Elle devra être rapatriée, a ajouté Serge Adam. Plusieurs autres publications ont été partagées pour honorer la mémoire des deux femmes, dont la mort touche clairement bon nombre de personnes qu'elles ont côtoyées dans leur vie. Alors, je souhaite mes condoléances à tous ceux et celles qui sont affectés par la mort de ces deux Québécoises mortes tragiquement au Portugal, Guylaine Boulanger et Élise Bénard.
Yeah.
Rien à faire, une chanson de Marie-Pierre Arthur.
La Chambre des communes reprend ses activités aujourd'hui. Pour la première fois, le premier ministre du Canada, Mark Carney, pourrait devoir répondre aux questions du chef conservateur Pierre Poilievre. Poilievre qui est redevenu député en août à la suite de sa victoire à l'élection partielle dans la circonscription de Battle River Crowfoot en Alberta. Il a parlé dimanche à son caucus lors d'une réunion pour préparer le retour parlementaire. Il a déclaré que les conservateurs travailleraient avec tous les partis afin que cette session soit une réussite pour le peuple canadien. Au cours de la courte session suivant les élections du mois d'avril, les conservateurs ont appuyé le projet de loi visant à accélérer la réalisation de projets jugés d'intérêt national par Ottawa. M. Carney a annoncé la semaine dernière les projets d'infrastructure qu'il souhaite voir approuvés et réalisés de façon accélérée, dont l'agrandissement du port de Montréal. M. Poilievre a vivement critiqué cette annonce, affirmant que M. Carney avait échoué à donner des permis à des projets nationaux vraiment importants. Oui, beaucoup de soleil encore cette semaine et en agriculture, on prie, j'imagine, pour avoir de la pluie. 71%, c'est la proportion du territoire canadien qui a subi un temps anormalement sec ou une sécheresse de modérée à exceptionnelle lors de la saison agricole 2025, selon l'outil de surveillance des sécheresses au Canada. Des fermiers de l'ensemble du pays ont expliqué à la presse canadienne que la sécheresse et la chaleur extrême avait diminué l'approvisionnement de citrouilles. Elles ont aussi provoqué une réduction de la taille de ces populaires légumes au temps de l'Halloween. L'Institut climatique du Canada note que la crise climatique augmente les risques et la sévérité des sécheresses dans les régions du pays déjà aux prises avec une pénurie d'eau. Un film controversé sur la mission de sauvetage d'un général israélien à la retraite lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a remporté le prix du public du meilleur documentaire au Festival international des films de Toronto, qu'on appelle aussi le TIFF, The Road Between Us, The Ultimate Rescue, du réalisateur canadien Barry Avrich, a attiré des manifestants pro-palestiniens et des contre-manifestants pro-israéliens à l'extérieur de la salle où le film a été projeté cette semaine. Le film raconte les efforts du général Noam Tibon pour sauver sa famille lors de l'attaque de 2023 qui a tué 1200 personnes. Le festival avait annoncé le mois dernier avoir retiré le film de sa programmation pour des raisons de sécurité et de droit, ce qui avait suscité les critiques de politiciens, d'organisations juives et de personnalités de l'industrie du spectacle. Merci d'écouter Au quotidien à Canal M, la voix de l'inclusion, à venir une chanson de Polo Epane et aussi une rencontre avec le comédien Félix Beaulieu-Duchesneau qui nous parle de la pièce « Mamie, le retour » qui prend l'affiche du Centre du théâtre d'aujourd'hui, le 23 septembre.
Avec Hélène Denis. Les oiseaux
Canopée de Polo et Pan.
Félix Beaulieu du Chêneau est comédien. Il est en studio. Ça me fait très plaisir de faire sa connaissance. Je vous ai déjà vu au théâtre. Bonjour Félix.
Bonjour à vous.
Dans, entre autres, Aziz.
Oui.
Oui, ça fait quand même longtemps.
Ça fait déjà un petit bout, mais c'est drôle parce que j'ai la chance de jouer. On va jouer tout prochainement. M'ont mis le retour au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Puis c'est là qu'on avait fait la création de Aziz. Puis
oui.
J'ai des petites réminiscences.
Il
y a quelque chose... certaines formes de parentalité entre l'irrévérence et l'audace qu'avait le projet à l'époque, puis le projet de Olivier Chouanière qui est très décapant. Ouais.
Alors, vous êtes un homme de théâtre. Vous avez fait le conservatoire en 2003.
Oui.
Déjà 22 ans.
Oui.
On vous a vu à la télé. On vous voit aussi au cinéma. Donc, vous ratissez large.
Oui, oui. J'ai eu la chance de toucher à beaucoup de choses. Beaucoup au théâtre, puis beaucoup à la création. Puis, comme on se parlait hors micro, un peu
l'enseignement
depuis maintenant 10 ans.
Oui, là où vous avez étudié, finalement, au conservatoire et à l'UQAM.
Oui, exactement. Donc, j'enseigne depuis, ma foi, 12 ans au conservatoire d'art dramatique de Montréal, la création, et depuis 4 ans aux élèves en jeu en troisième année.
Ça veut dire quoi, enseigner la création?
Ça veut dire, toujours être en train de se questionner sur qu'est-ce que la création. C'est pas arrivé avec une formule toute faite ou une recette. Comme je dis à mes élèves, je me présente pas devant eux comme un maître qui sait, mais plus comme quelqu'un qui cherche avec eux. Puis que, oui, J'ai joué beaucoup,
en
j'ai cherché beaucoup.
En tant que comédien?
Oui, c'est okay. Ça, en tant qu'acteur-créateur. Puis, tu sais, j'ai tellement... En fait, si j'ai goût d'enseigner, c'est parce que j'ai envie d'apprendre. Puis je me mets dans cette posture-là.
Ouais.
C'est que ces jeunes-là sont allumés, sont engagés, sont brillants. C'est sûr que je dis que c'est un cours dont ils sont, elles sont les héroïnes, les héros. Voilà.
Mais c'est un bel hommage que vous leur rendez ce matin.
Oui.
Mommy le retour, qu'est-ce que ça raconte?
Mommy
c'est
le retour.
C'est une pièce qui est reprise.
Oui, exactement.
D'où le retour.
Voilà, le retour. Donc, en 2013, Olivier Chouanière et sa bande de l'activité avaient fait Mommy aux écuries. Puis, le spectacle a été percutant parce que, bon, Olivier Chouanière, qui est auteur, metteur en scène, directeur artistique de l'activité et qui, à ce moment-là...
L'activité qui est une troupe.
Une compagnie de théâtre. Donc, ouais. Et puis, Olivier faisait aussi, jouait aussi, interprétait le personnage de Mommy, qui est une espèce
en
de...
En plus...
Personne âgée, momifiée, morte vivante.
OK, c'est pas une mère, là. C'est pas mamie.
C'est un peu
comme
ça, parce que...
Xavier Dolan.
Il y a un clin d'œil à ça, mais c'est la mère à puissance 10. C'est-à-dire que c'est la mère de tous et,
ah, oui?
Et de toutes, je dirais. Dans le sens qu'elle se revendique ça, du moins. Donc, dans Mommy, le retour, donc Olivier revient à la charge, puis il s'est entouré d'autres... beaucoup de concepteurs avec lesquels il est fidèle, puis mm-hmm. Ça paraît dans le traitement que l'activité fait avec ses spectacles, puis il s'entourait d'autres interprètes pour justement pas tomber dans une recette. Olivier, c'est quelqu'un qui cherche tout le temps, puis qui veut toujours bousculer le théâtre, et je pense se bousculer d'abord, et ça, je salue ça. Donc, avec une bande de comédiens extraordinaires, puis des...
On peut les nommer?
Oh, nommons-les. Donc... j'ai la chance de jouer en plus avec d'anciens élèves qui sont maintenant des collègues.
Pour vrai?
Oui.
Comme qui?
Ben, Gabriel Lemire, pour ne pas le nommer, qui interprète Mommy, rien de moins. Lynn's Dentiste, Zoé.
Zoé Tremblay-Bianco.
Voilà. Puis Sarah Laurando, que j'ai pas eu la chance encore de jouer, mais que je découvre. Puis toute l'équipe de conceptrices et de concepteurs qui sont incroyables, qui pour moi sont des partenaires de jeu, rien de moins. Hélène Ewing fait une conception de costume ahurissante,
ah oui?
Entouré d'une super équipe. Éric Forget au son, Claire Seller à la lumière, et Lucie Vigneault aux chorégraphies, j'en oublie peut-être, et Andréane Roy qui fait un job monumental de dramaturgie qui nourrit tout ce qui est autour de Mommy, qui est un peu une fable tragicomique sur le fascisme, j'oserais dire.
OK, une fable tragicomique sur le fascisme.
Ouais, donc,
on peut en rire.
On peut en rire, exact. Donc, Mommy est laissée pour à elle-même, abandonnée dans un CHSLD, un peu complètement désuet puis inhumain.
Mm-hmm.
Puis elle se réveille des morts et reprend vie sous la forme d'une momie, donc une espèce de momie un peu clin d'œil au film d'horreur d'autrefois et de maintenant. Puis elle... Juste à parler de
Mais c'est à la mode.
Bien, c'est sûr que l'horreur a la cote.
La momie aussi.
Et la momie et les morts vivants ont vraiment la cote. Puis Olivier se sert de ça comme un symbole pour parler de la propagation du fascisme, qui est très astucieux et brillant de sa part. C'est qu'il va chercher dans la forme du théâtre d'horreur. Il nomme lui-même, il appelle ça un conte d'horreur musicale. Donc, je trouve ça assez magnifique. Il emprunte
Parce
au code
du
rap. Oui, c'est ça. Il emprunte au code du rap. Et il y a du lip-sync, il y a comme de la danse, il y a beaucoup de faux sang, de trucs un peu gore, mais artisanal.
Oui, oui.
Donc, c'est très festif.
Il y a
festif.
Un DJ sur la scène?
Il y a un DJ sur la scène. Je n'en dirai pas plus, mais qui prend des airs un petit peu divines, si on peut dire.
Oui, je lis ici à Laura Messianic.
Voilà. Donc, qui est interprété par Sarah Laurando. Donc, c'est vraiment le délire. Puis, donc, à travers ce délire-là, ça fait plein de sens. C'est que Mommy essaye de retrouver son Québec d'antan. Disons, tout ce qui fait qu'on le... En fait, c'est tout ce qui fait que le fascisme est ce qu'il est. Donc, une espèce de déception, honte par rapport au monde dans lequel on est. Volonté de retourner, de retrouver la gloire d'antan.
Quand on parle de fascisme, est-ce que ça a un lien avec la Deuxième Guerre mondiale ou avec les discours d'aujourd'hui qui sont un peu...
C'est un genre de mix parce que, dans le fond...
De droite.
Oh, c'est ça, c'est qu'Andréane Roy, la dramaturge,
excessif.
Et Olivier, ils ont beaucoup fouillé sur, justement, un peu qu'est-ce qui fait le fascisme, qu'est-ce qui fait qu'il y a une montée de la droite partout dans le monde, puis aussi au Québec, malheureusement. Aux États-Unis, si on peut juste comme le constater. Puis, dans le fond, c'est tous les mécanismes du fascisme, peu importe qu'on soit la première, deuxième, troisième guerre, on n'en espère pas une, mais disons, ce qu'on vit en ce moment,
mm-hmm.
Ben il y a comme des, les mécanismes que le fascisme emprunte. Puis Olivier se sert de ça pour parler de ça, de la contamination du fascisme. Donc, tout ce qu'on voit par rapport au fait de, justement, d'un retour au passé, d'une espèce de, conservatorisme, un retour à la religion. Donc,
alors, puis, c'est chargé la tradition, comme pièce.
C'est complètement chargé. Donc, c'est pour ça que je parle de tragicomédie, parce que c'est complètement comique, parce que c'est le délire. On est presque dans une forme de clown, dans le sens noble du terme, ou de bouffon.
Qu'est-ce que vous jouez comme personnage?
J'ai la chance de jouer un personnage qui s'appelle Walt Disney. Ben, en fait, c'est une espèce de... D'où la moustache, je ne peux pas le voir, vous qui êtes...
Ah oui?
Mais j'ai une fabuleuse moustache qui...
Que vous ne portez pas habituellement.
Que je ne porte pas habituellement. Et voilà, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le théâtre? Donc,
et une barbe aussi.
Voilà, mais là, c'est parce que là, étant friche un peu, mais ça va être clean. Walt Disney, qui, avec Fée Clochette... je n'ai pas nommé cette chère Edith. Donc, Edith qui va jouer...
Edith Paquet.
Voilà, merci. Donc, Edith, que je salue. Donc, il va jouer...
Walt Disney, puis Fée Clochette.
Exact. Donc, on est un peu les deux narrateurs. Donc, ouais. C'est comme si on s'adresse au public comme si on était, comme s'ils étaient des enfants au départ. Donc, toute l'idée avec le fascisme d'infantiliser un peu les gens, tout le populisme. Donc, on peut un peu les endormir par un espèce de conte à travers lequel on va...
Les manipuler.
Les manipuler, voilà. Donc, c'est vraiment de ça dont il est question. Donc, Walt Disney, avec sa petite moustache fine et ses cheveux lustrés, va conspirer avec Fée Clochette et Mommy et tous les autres à porter le public à travers, à essayer de les contaminer pour qu'ils deviennent zombies, donc qui adhèrent alors à la croyance. Rien de moins.
Est-ce que c'est une dénonciation du monde de Walt Disney?
Je pense pas que lui va jusque-là. Tu sais, je n'irai pas dans tout ce qui a trait à Walt Disney puis les scandales qu'il a pu avoir autour de l'homme, mais c'est sûr que comme toute grande compagnie, il y a eu peut-être une certaine forme de dérive et de... Comment dire, peut-être d'abus de pouvoir sur certaines choses, mais ça fait partie des grands archétypes de... Mais c'est beaucoup pour le clin d'œil sur l'idée de conte, de raconter comme si le public était un enfant candide qui va se faire avoir.
C'est un projet atypique.
Complètement.
Et ça vous attire, ce genre de projet, j'imagine, puisque vous avez dit oui
à... Ah oui, complètement. Oui, absolument. J'embrasse complètement cette proposition artistique. L'activité est dirigée domaine maître par Olivier Joignard. Donc, c'est vraiment comme un travail de création assez admirable. Donc, travaille vraiment en amont très fort pour créer des laboratoires, pour qu'on s'approprie le texte, le langage scénique, tout ça. Donc, on travaille avec les concepteurs. C'est pour ça que je parle, c'est vraiment des partenaires de jeu depuis le printemps dernier pour essayer de s'approprier tout ça puis chercher avec Olivier qui nous ouvre la porte de sa création, mais qui reste quand même, c'est lui qui signe tout et qui prend ou prend pas certaines de nos propositions. Puis après ça, on embarquait dans un processus de création qui est bien structuré, puis avec lequel on peut accumuler les couches, parce qu'il y en a beaucoup.
Il y a du faux sang aussi.
Il y a du faux sang.
Il y a des maquillages de zombies. Il y a une musique live. Est-ce que c'est un défi technique supplémentaire pour l'équipe, pour les comédiens, comédiennes?
C'est un bon club sandwich. C'est un club sandwich 5 étages. Donc, il faut y aller une toast
pas
à
super
la fois.
Appétit.
Non, mais c'est magnifique. C'est vraiment très bon. C'est bien fait. Couper un petit morceau, ça se mange magnifiquement. Mais effectivement, donc le fait pour assimiler tout le côté, la vérité. Parce que pour Olivier, c'est très important, puis il a raison, puis pour nous
même
aussi.
Même si c'est du faux sang.
Puis même si c'est du faux sang, il faut que ça soit vrai derrière. Ouais. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est Walt Disney ou Mommy, puis qu'il y a quelque chose qui est réel? Il y a une vraie peine. Mommy, elle se sent vraiment abandonnée. Les gens qu'elle croise ont vraiment des... Ils sont vraiment comme désœuvrés et désillusionnés. Puis le fascisme tend la main aux désillusionnés, puis leur promet quelque chose qui, en bout de ligne, vont se trouver, comment dire... laisser de côté parce que c'est comme s'ils sont utilisés pour après ça, une fois qu'ils sont au pouvoir, bye-bye, je mène en tyran, en tyranne. Donc, c'est un petit peu
un
ça.
Un peu comme les gens qui se retrouvent dans une secte.
C'est un petit peu... la comparaison avec le milieu sectaire est complètement juste. Il y a quelque chose de ça. Puis, il y a tout un rapport à la religion. Puis, c'est comme bricoler une idéologie en mélangeant certaines choses pour que ça fasse l'affaire de tout le monde. Tout ce discours-là est terrible, mais est beau à la fois.
Olivier Chouinard a dit, je cite, « J'aime les monstres. Ils me permettent de donner une forme à mes cauchemars, de les mettre en scène pour qu'ils restent dans la fiction et ne deviennent pas réels. » Vous, Félix, est-ce que vous aimez les monstres?
Oui, quelle belle question. Oui, j'ai même fait un spectacle solo qui s'appelait « Le nombril du monstre », donc de dire comment j'aime les monstres. Puis, je vais toujours me rappeler d'une note d'un metteur en scène que je salue, Marc Bellan, que j'ai la chance de
comédien metteur en scène,
homme de théâtre incroyable et humain fabuleux. Donc, il disait justement qu'on travaillait sur un spectacle où on jouait des personnages qui étaient monstrueux, qui disait, dans le fond, c'est facile de juger les gens comme si c'était des monstres, mais à partir du moment qu'on les regarde, puis on les voit dans leur humanité, puis on se rend compte que ça pourrait être nous, bien là, notre regard change. Puis le monstre n'existe pas, c'est nous qui en faisons un monstre. Puis dans le fascisme,
soyons humbles et ouverts d'esprit.
Exact. Puis la pièce parle de ça, parce que les morts vivants finissent par trouver que les humains sont des monstres, et les humains trouvent que les morts vivants sont des monstres, un peu comme on peut trouver que l'autre, celui qui est différent de soi, est un monstre. Donc.
Et comment vous aimeriez que le public reçoive le spectacle, Mommy le retour?
Bien, je souhaite de tout mon cœur que les gens embarquent dans cette proposition-là, qui la forme est incroyable et déjantée, tout ça, mais que cette forme-là magnifie le fond. Ça serait dommage, et je crois qu'on n'ira pas là, que les gens attrapent juste « Ah oui, c'était super chouette, il y avait du rap, ils ont dansé, c'était drôle, puis c'est tout, on n'en parle plus. »
Mais ça, j'imagine ça serait dommage. Que Olivier Chouanière, à la mise en scène, a fait un travail pour qu'on aille au-delà de ça.
Le propos est en avant, et Dieu sait que la forme est forte, voire, je trouve, puissante, à mon goût, à moi. Puis d'arriver à ce que ce fond-là magnifie et dénonce, ou questionne plutôt l'idée du fascisme, puis comment on est tous et toutes, comment dire, on peut tous se faire mordre par les morts vivants du fascisme, ou d'une idée radicale. Mm-hmm. C'est que ça, je trouve ça chouette. C'est que j'espère que les gens vont complètement être déboussolés au niveau formel, puis être à la fois bousculés et fascinés, et qu'ils vont réfléchir sur, hey, dans le fond, c'est les mêmes mécanismes, c'est la même chose. Reconnaître un peu les ce qui se cache derrière le masque du fascisme.
Oui, c'est très convaincant. Vous devriez faire de la radio.
Ah, j'aimerais ça!
Oui, faire peut-être des chroniques.
Oh,
ou,
c'est gentil. Vous lisez
dans
mon cœur.
On va vous inviter un jour, peut-être, pour une fois peut-être. Félix Beaulieu du Chêneau, chroniqueur à Canal M, parce que vous êtes bien occupé aussi par votre métier.
Oui, c'est ça. Bien, on est bien occupé, mais bien chanceux de l'être aussi. Puis ce projet-là m'a mis le retour, c'est vraiment... Il y en a d'autres, des projets comme ça dans ma carrière, mais c'est vraiment comme une grande chance. Ouais. De retrouver des anciens élèves que j'ai eu la chance d'enseigner, qui sont fabuleux, qui m'apprennent complètement, c'est à mon tour d'être leur élève. Puis toute cette équipe-là, c'est vraiment grandiose.
Puis après Mommy le retour, qu'est-ce qui vous attend?
Donc, après Mommy le retour, je suis beaucoup occupé par l'enseignement de la création, et je fais moi-même une maîtrise en ce moment.
Ah oui?
Donc, une maîtrise en théâtre pour continuer à chercher, parce que je trouve que c'est important... une recherche-création, justement, pour continuer à moi, trouver d'autres outils pour mes étudiants, pour moi-même, tout ça. Puis moi, comme créateur. Donc, je travaille sur une création.
Je suis certaine que ça aurait été intéressant de vous entendre dans une entrevue menée par Renaud Mirois, parce qu'on en parlait de Renaud Mirois en dehors des ondes, parce que ça affecte tout le monde. Hein?
Absolument.
Tous ceux et celles qui sont amoureux de la culture, qui font le métier également. Oui. Et je vous demandais si vous aviez eu la chance d'être interviewé par lui. Ça aurait pu se passer à ce temps-ci, là, pour parler de Mommy, justement.
Absolument. Que j'aurais adoré, puis je offre mes condoléances à toutes celles et ceux qui l'ont aimé, qui l'aiment encore. Je fais partie de cette constellation de gens qui aiment René Aumirois. Oui, puis je pense que ce spectacle-là, en tout cas, l'aurait pas laissé indifférent, j'ose croire ça, par son ouverture puis son côté allumé.
Tout à fait.
Je pense.
Oui, allumé jusqu'à la fin.
Oui.
Félix Beaulieu du Chêneau, bien, on vous souhaite du succès,
merci,
du plaisir.
Tellement.
Puis on rappelle que ça s'appelle Mommy le retour. Il y aura des zombies, des morts vivants au Centre du théâtre d'aujourd'hui à partir du 23 septembre jusqu'au 18 octobre. Merci,
exact.
Félix.
Merci beaucoup.
Comprendre comment tu vois les choses passer. Tu insuffles une vie qui rappelle l'ennui. Et à chaque moment, la confusion s'ensuit. Mais quand je te vois, se dérobe mon cœur. Et tous mes doutes s'éclipsent. Même si je me vois compter les heures, j'aimerais que tu prennes un risque.
Mais c'est
comment je faisais avant, à quel point tout a changé. J'ai souvenir d'une vie où tout n'était que souci, mais le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien autour n'existe. Et je voudrais que s'étire les heures, que tout reste au beau fixe. Toi, c'est toujours les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Cœur de pirate et les trois accords pour chanter toujours les vacances.
Dans le Journal de Québec, sous la plume de Catherine Bouchard, c'est une nouvelle qui est parue le 10 septembre, l'Association des personnes handicapées de Lévis a lancé mercredi dernier le début de ses travaux d'agrandissement de sa maison de quartier située dans le quartier Charny. Cet agrandissement permettra d'offrir plus de services et ce, à plus de personnes. La nouvelle partie sera d'une superficie de 600 mètres carrés et annexée à la maison existante sur le boulevard du centre hospitalier. Parmi les améliorations qu'apportera l'agrandissement, il y aura entre autres l'ajout de 5 lits supplémentaires pour le service de répit avec nuitée, l'ajout de 49 nouvelles places pour le service de répit de jour, l'ajout de 31 nouvelles places pour des activités en centre de jour et l'aménagement de salles multifonctionnelles, sensorielles et de stimulation. La fin des travaux est prévue en mars 2026. Le projet représente des investissements de 2,5 millions de dollars. L'organisme Logement en HAN caresse un projet de construction sur la rue Wilcox à Magog. On y aménagerait 14 logements adaptés et abordables pour des personnes handicapées. On vise 3 lots boisés offerts en don. Le projet qui a été dévoilé lors d'une assemblée publique suscite des préoccupations, notamment environnementales, étant donné la présence d'arbres matures. Nathalie Pelletier, mairesse de Magog, évoque la loi 31 pour accélérer l'approbation, un pouvoir rarement utilisé, assure-t-elle. Dans les faits, c'est la troisième fois depuis toujours. Il y en a un, c'était les jardins de la falaise, c'était quelque chose qui était intégré dans une falaise avec une rue cul-de-sac. C'est un projet privé. Mais là, les deux projets, c'était le projet des jardins. Finalement, on connaît l'issue, ce projet est mis de côté, et l'autre qu'on faisait cheminer en même temps, c'était Logement en. L'organisme porteur déjà actif au Québec vise l'intégration harmonieuse du projet dans le secteur tout en répondant à un besoin criant de logements adaptés. C'était hier soir le gala des prix Gémeaux, 40e gala, avec des prix du public et des prix du comité qui analyse, qui regarde les émissions et qui décide du gagnant de la gagnante. Alors, côté public, émission coup de cœur de l'année en direct de l'Univers. Également, meilleure série dramatique, là, c'est l'Académie là, qui a décidé. Le Temps des framboises, saison 2. Meilleure série dramatique annuelle, Sorcière, saison 2. Sorcière qui ne reviendra pas sur les ondes de TVA. Meilleure comédie ou comédie dramatique, Qui a poussé Mélodie? Meilleur premier rôle masculin série dramatique, Charles Aubé Houd pour La Collecte. Meilleur premier rôle féminin série dramatique, Pascal Renaud-Hébert pour Veille sur moi. Personnalité féminine de l'année, prix du public Geneviève Évrel. Personnalité masculine de l'année, prix du public Antoine Bertrand. Et encore le prix du public, cette fois la catégorie découverte de l'année, Sarah Dufour, collaborateur, collaboratrice émission hors fiction. Prix du public Chantal Lamarre pour Infomane. Émission coup de cœur des 40 dernières années, c'est le public qui a choisi En direct de l'univers. Meilleur premier rôle féminin série dramatique annuelle, Céline Bonnier pour Sorcière 2. Meilleur premier rôle masculin série dramatique annuelle, Michel Laperrière pour Indéfendable saison 3. Meilleur premier rôle féminin comédie ou comédie dramatique, Julie Le Breton pour Le retour d'Anna Brodeur. Et meilleur premier rôle masculin comédie ou comédie dramatique, Robin Joël Cool pour Tant de chiens, saison 2. Alors, félicitations à tous les lauréats et toutes les lauréates. Et félicitations aussi à tous les finalistes. Et aussi, félicitations à l'animatrice Véronique Cloutier. Quelle animatrice formidable! C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été présent à l'écoute de l'émission Au quotidien. Et j'espère vous retrouver demain à compter de 9h30. Merci à Mathieu Tessier en régie. Ici Hélène Denis. Bonne journée. À demain.